Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Plus que 10 jours pour la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, couplée à l'élection des sénateurs, pour amener les députés provinciaux de Kinshasa, par exemple, à opérer des choix judicieux, deux ONG leur ont dispensé une formation le mois passé sur la sécurisation des élections indirectes. Des détails dans un instant. Les effets collatéraux de la guerre du M23 au Nord Kivu affectent économiquement la cité de Minova au Sud Kivu voisin. En effet, Minova s'approvisionne en grande partie à Goma, mais depuis l'arrêt du trafic entre Goma et Minova en passant par Sake et Chacha, la vie devient intenable, affirme un habitant. Et puis, la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et l'Observatoire de la dette publique demandent des explications sur le contrat que le ministère de développement rural a signé en mai 2022, contrat pour l'installation de 1000 stations d'eau et des lampadaires dans plusieurs localités de la RDC. Cependant, le taux de réalisation est jugé très faible. À tous et à toutes, bonjour. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, c'est pour le 29 avril prochain. Elle sera couplée avec celle des sénateurs. Selon le dernier communiqué de la CENI, à Kinshasa, ils sont une trentaine de candidats en lice. Les défis à relever et les attentes des habitants sont nombreux pour les nouvelles autorités provinciales, mais déjà pour amener les députés provinciaux de Kinshasa, électeurs pour ces deux scrutins, à opérer des choix judicieux. Deux ONG leur ont dispensé une formation le mois passé sur la sécurisation des élections indirectes. Précision dans ce reportage de Marie-France Mungindu et Babel Mpongo Masimango.
Parmi les 31 candidats, on compte aussi bien des membres des partis et regroupements politiques que des indépendants. Les Kinois attendent beaucoup de nouvelles autorités provinciales qui seront élues au suffrage indirect par les députés provinciaux.
Kinshasa est buté à un problème d'insalubrité. Je demanderai au nouveau gouverneur de faire un achat de plusieurs tractopelles pour chaque maison communale.
On a besoin d'un gouverneur qui est rempli des probités morales. On a une forte densité de la population. Le gouverneur doit travailler avec le gouvernement central pour qu'il résolve les problèmes d'exode rural.
D'autres là disent ne rien espérer, vu les cas de corruption qui entachent souvent les élections indirectes en RDC.
Je n'attends rien du gouverneur par rapport au format avec lequel on élu le gouverneur. La corruption bat son plein. Avec 50 000, 10 000 dollars avec un véhicule TX, on peut acheter de voix et puis élire un gouverneur.
Pour prévenir cela, l'ONG Diakona et l'Institut républicain international avaient organisé le 26 mars dernier à Kinshasa une formation des députés provinciaux sur la surveillance des élections indirectes. Et les députés ont notamment été invités à éviter toutes sortes de corruptions et d'opérer des choix judicieux. L'avenir de la province et du pays dépend aussi de leur vote.
Et puis, après 10 mois d'une éprouvante captivité qui a provoqué une forte dégradation de mon état de santé, la liberté provisoire qui m'a été accordée a permis mon évacuation sanitaire en Belgique où j'ai été opérée il y a quelques jours avec succès. J'aborde maintenant la phase post-opératoire, la plus sensible et délicate. J'ai bon espoir, grâce à vos ferventes prières, de parvenir à une guérison rapide et revenir très vite chez nous en RDC. Ces propos sont de l'opposant Salomon Idi Kalonda dans un message publié hier jeudi sur son compte X. Le conseiller spécial de Moïse Katumbi dit rendre grâce à Dieu qui lui a permis de tenir tout au long de cette épreuve. Il exprime aussi sa gratitude à l'endroit des autorités politiques et judiciaires qui ont permis qu'il aille se faire soigner dans un cadre approprié. D'autres détails de ce message avec Murphy Fika.
C'est la première fois que Salomon Kalonda s'exprime depuis qu'il a obtenu sa liberté provisoire. Il écrit, je cite, « Je remercie de tout cœur celles et ceux qui, dans la lumière comme dans l'ombre, se sont mobilisés et m'ont soutenu dans ces moments difficiles. La famille, les amis et connaissances, les confessions religieuses, les activistes des droits de l'homme, les électeurs qui m'ont accordé leur confiance, mes avocats, ainsi que, tout particulièrement, les personnels médicaux à Kinshasa qui a fait preuve d'une grande compétence, d'un grand dévouement et d'une bienveillance exceptionnelle. Toute ma reconnaissance également au chirurgien qui m'a opéré, le docteur Benoît Beaumans, et à l'urgentiste, le docteur Stéphane Tankoua. Fin de citation. Aujourd'hui comme chaque jour, depuis ce triste mois de juillet 2023, poursuit-il, j'ai une pensée spéciale pour un ami, un frère, Chéribin Okende, à qui je n'ai pu dire au revoir. Je tiens à assurer toute la famille de mon entière fidélité à sa mémoire.
Salomon Kalonda conclut son message en indiquant que ses pensées vont à Mike Mukebayi, détenu sans jugement à Makala et dont il espère la libération très rapide, à Stani Boujakera qui, Dieu merci, a retrouvé la liberté, et aux autres qui ont vécu ou vivent l'expérience douloureuse de la prison. Je ne les oublie pas, a dit Salomon Idi Kalonda. Autre nouvelle, les 5 membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central ont été installés hier jeudi. Il s'agit entre autres de Papi Mantezo, le président, Joseph Nsalambi, vice-président, Victor Nswami, rapporteur, Bilin Tunga, rapporteur adjoint, et Mbadou Omega, questeur. Dans son discours, Papi Mantezo s'est dit conscient des défis que la province du Congo central a tant relevé dans plusieurs secteurs, dont l'éducation, les infrastructures, la santé et la sécurité. Pour y parvenir, il rassure la population que l'Assemblée provinciale de cette législature jouera valablement son rôle et ne sera pas la caisse de résonance du gouverneur. On écoute un extrait du discours de Papi Mantezolo choisi par Nana Plurish Mambo.
La vie au Congo central devient un casse-tête. Vous ne pouvez pas quitter Kinshasa, arriver à Matadi à l'air voulu. Les embouteillages sont partout et apparemment comme si l'autorité n'existe pas. Les députés provinciaux vont se déployer à travers la province pour connaître ce qui se passe dans la province. Notre premier objectif, c'est de travailler pour la cohésion provinciale. Sans la cohésion, on n'a pas la paix. Il y aura une bonne collaboration entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Mais la collaboration ne va pas nous empêcher de les contrôler. Nous ne pouvons pas laisser la place de contrôle à l'IGF. L'IGF, c'est un service attaché à la présidence, ne pouvait pas être comme un organe délibérant, alors que nous sommes constitués dans les lois de notre pays pour faire ce travail. Et à partir de notre avènement, je vous garantis, l'IGF ne va pas se substituer à notre assemblée, parce que l'assemblée fera son travail.
Direction le Nord Kivu. Les dégâts collatéraux de la guerre du M23 qui sévit depuis plus d'une année dans la province et plus particulièrement le territoire de Masisi impactent négativement la situation socio-économique de la cité voisine de Minova, groupement Bouzi dans la province du Sud Kivu. Le point de la situation avec vous, Gabriel Ouamenia.
La cité de Minova, située à la limite avec la cité de Mweremana en groupement de Mufuni-Shanga en territoire de Masisi, s'approvisionne en grande partie dans la ville de Goma. Les vécus socio-économiques des habitants de cette partie dépendent en grande partie de la province du Nord Kivu où ils s'approvisionnent en produits de première nécessité. C'est également dans cette région qu'ils mènent des activités agro-pastorales. Depuis l'arrêt du trafic entre Goma et Minova, en passant par les cités de Sake et de Chacha, c'est la misère qui s'est installée à cause de la guerre menée par les rebelles du M23. La vie devient intenable, affirme cet habitant joint au téléphone.
Et tous les habitants de Kiroche, de Chacha, de Kituva, de Yamubingwa et de Bweremana sont à Minova. La cité de Minova se nourrissait et de produits en provenance du Nord Kivu qui est même sous occupation de ces terroristes du M23.
Les obus qui tombent régulièrement à Minova et dans ses environs en provenance des collines de Ndumba causent d'importants dégâts lundi dernier. 4 obus sont tombés dans la cité, blessant au moins 11 personnes qui sont actuellement à l'hôpital Sebekan Docho. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Okapi.
Restons au Nord Kivu. Dans le territoire de Beni, 16 écoles ne fonctionnent pas depuis 2 semaines dans la commune rurale de Mangina, située à 30 km de Beni. En cause, l'insécurité caractérisée par la multiplication des attaques des rebelles des EDF dans la région. Conséquence, quelques milliers d'élèves n'ont plus accès aux cours. Récit des faits avec Guylaine Kassassia.
Il s'agit de 12 écoles primaires et 4 écoles secondaires qui ne fonctionnent plus depuis 2 semaines. Elles sont situées à Mangodomu, un quartier périphérique de la commune rurale de Mangina, devenue la cible des attaques des ADF depuis 2 mois. Des sources éducationnelles locales affirment que plus de 7500 élèves de ces écoles n'ont plus accès aux cours à la suite de cette situation. Beaucoup d'entre eux ont fui la zone avec leurs familles pour se déplacer vers le centre de Mangina et dans la ville de Beni. Amos Mouongia Mayala, préfet de l'Institut Mangodomu, plaide pour la relocalisation des écoles fermées vers le centre de Mangina, milieu encore sécurisé. C'est pour éviter une année blanche à ses élèves, précise-t-il. Contacté, Eno Kaviavu Musubao, chef de la sous-division éducationnelle de Wicha, dit être en pourparler avec les autorités pour une reprise de cours dans les écoles fermées. Beni, Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Toujours dans le territoire de Beni, une accalmie s'observe depuis 6 mois dans la chefferie de Bachou. C'est à la suite des opérations militaires des armées congolaises FARDC et ougandaises UPDF contre les rebelles des EDF. C'est aussi grâce à la sensibilisation des jeunes à quitter les groupes armés. Toutefois, Sadam Patangouli, l'un des leaders communautaires de la chefferie de Bachou, appelle la population locale à la vigilance. D'après lui, la zone n'est pas totalement pacifiée. Sadam Patangouli, joint par Marc Marofimbo.
Nous sommes dans une zone où l'ennemi a vécu depuis très longtemps. Nous sommes trop prudents par rapport au mouvement que nous effectuons dans des champs. Surtout que nous sommes dans une période culturelle et c'est pendant cette période ici que l'ennemi profite de faire des dégâts du côté de la population. Et pour le moment, au moins, la collaboration est vraiment franche entre la population et son armée. Il n'y a pas d'intox sur terrain, même la nuit. Si nous circulons du côté de Volamboï Salé, sauf que c'est du côté de Kanyihunga où il y a toujours des problèmes parce que c'est une zone qui a en tout cas un faible effectif des forces armées de la RDC et c'est une zone qui était toujours sabotée par l'ennemi. Donc voilà pourquoi de l'autre côté, la population vit toujours la peur au ventre. Il y a ceux qui sont à Butembo qui craignent pour leur sécurité.
Direction la province de Maïndombe, l'Agence nationale pour la promotion des investissements des affaires, ANAPI, a organisé du mercredi 17 au jeudi 18 avril à Inongo un atelier de formation à l'attention des opérateurs économiques qui investissent dans le secteur agricole. L'objectif est de renforcer leurs capacités afin qu'ils soient à mesure d'opérer les réformes dans l'assainissement de l'environnement des affaires et d'investissement. C'est ce qu'a déclaré Michel Maswaku, directeur climat de l'ANAPI. Ces assises ont été ouverte par le ministre provincial du plan de Maïndombe, Irène Boma, reportage.
Pendant des jours, les participants à ces assises, qui sont les opérateurs économiques œuvrant dans le secteur agricole de la province du Maïndombe, ont été outillés sur les modules pouvant leur permettre d'assainir l'environnement des affaires et des investissements dans cette province. Le directeur climat de l'ANAPI, venu de Kinshasa, Michel Maswaku, explique.
Les membres de la cellule du climat des affaires seront à même aujourd'hui d'opérer des réformes structurelles et même systémiques pour permettre à la province d'assainir l'environnement des affaires et des investissements. Les contenus de cette formation sont d'abord le climat des affaires, les baromètres du climat des affaires. Quels sont les outils nécessaires pour permettre aux membres de cette cellule d'opérer des réformes, de faire des plaidoyers pour assainir l'environnement des affaires de cette province de Maïndombe?
Il est à noter qu'une cellule du climat des affaires sera installée dans la province du Maïndombe dans les tout prochains jours, avec comme objectif de faciliter un bon partenariat entre la province et les investisseurs. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Province du Maniema, après une année d'exécution du projet de réponse d'urgence en matière de nutrition et sécurité nutritionnelle, l'ONG Action contre la faim clôture ce projet dans la zone de santé de Pounia. Arrivé fin projet, l'ONG ICEF dit avoir pris en charge 2096 enfants malnutris contre 1080 attendus dans les 12 aires de santé sur les 17 que compte la zone de santé de Pounia. Ces résultats sont salués par les autorités sanitaires, administratives et la communauté locale. Florence Kiza.
L'insécurité alimentaire, les épidémies et d'autres aléas sont les causes favorisant la malnutrition à Pounia, fait savoir le coordonnateur du Pronanit. Sur les 2096 enfants, 1789, soit 75% d'enfants sont guéris. Docteur Moussa Bikoulobiance, satisfait.
L'instruction aussi a été donnée aux différents prestataires parce qu'elle s'est fait laisser les intrants pour couvrir au moins 2 mois. Et les prestataires sont instruits de gérer ces intrants en bonne et due forme.
La communauté plaide pour la pérennisation de ses activités. Christophe Kamwanga, président de la société civile.
Avec ce qui ACF venait de nous présenter aujourd'hui, vraiment, moi, en tant que représentant de la communauté, je suis très ravi puisque ACF a dépassé même la cible. ACF a sauvé des vies des enfants. ACF a récupéré beaucoup d'enfants qui devraient mourir ici à Pougne.
Signalons que 425 enfants restent sous suivi de cet ONG malgré la fermeture du projet avec un stock d'un 30 de 2 mois. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Niger et le Mali ont récemment conclu un accord historique visant à garantir l'approvisionnement en carburant pour le Mali. L'accord conclu le mardi 16 avril prévoit que la société nigérienne de pétrole, Sonidep, fournira à Énergie du Mali une impressionnante quantité de 150 millions de litres de gasoil. Cette transaction, évaluée à plus de 42 milliards de francs CFA, vise à soutenir le Mali dans sa lutte contre les pénuries d'électricité persistantes.
L'invité.
La Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, et l'Observatoire de la dette publique, ODEP, demandent au ministère du Développement rural des explications. C'est au sujet du contrat qu'il a signé le 31 mai 2022 avec le consortium d'entreprises Stever Construct, un contrat pour installer 1000 stations d'eau et des lampadaires dans plusieurs localités de la RDC. Mais le taux de réalisation est jugé très faible alors que les entreprises ont empoché 80 millions de dollars. C'est plein, la LICOCO et l'ODEP. Pour en parler, nous recevons Ernest Mpararo, président de la LICOCO. Il est avec Daniel Tambinzoni.
Ernest Mpararo, bonjour.
Bonjour.
Vous demandez un peu plus de lumière à l'hôtel de ville qui avait signé un contrat avec un consortium d'entrepreneurs pour installer 1000 forages et de dispositifs solaires à Kinshasa. Qu'est-ce que vous voulez savoir justement?
Effectivement, comme vous le savez, ce n'est pas l'hôtel de ville, mais c'est le gouvernement à travers le ministère du Développement rural qui a signé un contrat avec une société dénommée Steve Construction pour effectivement installer plus de 1340 forages dans le milieu rural en République démocratique du Congo. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté, selon le ministère des Finances lui-même, qui a payé une avance de 80 millions, le taux d'exécution est à 7%. Et le prix des forages pose problème étant donné qu'il n'y a pas eu évaluation indépendante pour savoir le prix de chaque forage. Or, le contrat qui est signé, c'est à peu près 297 000 dollars par forage que nous estimons, nous, avec les collègues et toute la société civile, nous estimons effectivement que ce prix est tellement cher. Deuxièmement, nous ne savons pas par province où est-ce qu'on va installer ces forages. Il serait mieux que le ministère du Développement rural ou le ministère des Finances ou l'entreprise qui a bénéficié de ce contrat puisse publier la liste des sites où on va installer les forages pour que les citoyens puissent faire les suivis.
Donc, il n'y a pas une cartographie claire des endroits où seront installées ces infrastructures.
Parce que jusqu'à présent, nous avions à Kinshasa, terre jaune, on ne sait pas là où ça se trouve. Nous ne voyons pas, il fallait qu'on publie en province pour que les collègues qui sont en province et les citoyens puissent faire les suivis. Si on construit mal, les gens peuvent adresser des plaintes auprès des autorités afin que la société puisse réaménager la construction. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne connaissons pas, alors que les bénéficiaires sont les citoyens. Et s'il y a des pratiques de détournement ou de corruption, il faudrait que, effectivement, les cours et tribunaux se saisissent pour punir ou sanctionner les coupables.
Mais ce contrat, je pense, comme vous l'avez dit dans le communiqué, a été signé l'un au mois de mai de l'année 2022 et l'autre même en 2021. Pourquoi avoir attendu beaucoup de temps comme ça pour le dire aujourd'hui, pour le dénoncer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous craignez?
Effectivement, tu sais, lorsqu'on signe le contrat, ce n'est pas le même jour qu'on va commencer à travailler. Mais effectivement, comme vous le dites, le taux d'exécution pour le montant qui a été payé de 80 millions, on devrait recevoir à peu près 250 forages. Et pour les lampadaires, on devrait installer plus de 200 lampadaires dans la commune de Kasavubu, Giringiri et Bumbu. Mais qu'est-ce qu'on constate? On a seulement installé une petite partie qui ne représente même pas un tiers des lampadaires sur l'avenue Chaba à Kasavubu. L'avenue Ngiringiri et Bumbu, on n'a pas encore, alors que les sociétés ont reçu de l'argent. Pour les lampadaires, la société a reçu déjà 100% du paiement. Et pour le forage, 80 millions représentent déjà plus de 30% du montant total du projet. Nous pensons que le taux d'exécution est tellement faible et cela suscite effectivement des interrogations.
Mais si vous passez, par exemple, dans la commune de Bumbu, sur l'avenue Landou, partant de l'avenue 24 jusque sur l'avenue Chaba, il y a quand même des lampadaires qui sont placés là. Ce n'est pas dans le cadre de ce marché que vous décrivez aujourd'hui, c'est une autre entreprise qui a placé ça, les lampadaires solaires qui éclairent la nuit.
Je pense oui, ce n'est pas dans le cadre du projet.
Étant donné que les lampadaires qui sont là existent depuis avant 2021.
Mais qu'est-ce que vous demandez à l'entreprise qui a déjà empoché l'argent du trésor public, l'argent du contribuable congolais?
Et je pense qu'on devrait leur ravir les contrats et l'attribuer à une autre société qui va continuer avec le travail et que cette entreprise rembourse l'argent déjà empoché. Je sais qu'actuellement, il y a des enquêtes judiciaires et si l'entreprise a empoché l'argent mais n'a pas fait le travail, il doit être sanctionné et être blacklisté en RDC pour qu'il ne puisse plus bénéficier d'autres contrats à l'avenir.
Ernest Mpararo, merci.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.